J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années qui avait renoncé à fréquenter une certaine église de la région lyonnaise parce que dans cette église, ils avaient l'habitude de mettre des fleurs devant, à côté du pupitre du pasteur. Donc il a arrêté d'aller dans cette église. Je me souviens aussi de quelqu'un d'autre qui est venu me voir un jour à la fin d'un culte, et alors que je m'attendais à ce que cette personne me fasse une remarque soit positive, soit négative sur ma prédication, elle m'a plutôt fait comprendre qu'elle était assez choquée que je me sois permis de prêcher sans porter de cravate. Je me souviens encore de quelqu'un d'autre qui pensait qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait une école du dimanche pour les enfants pendant le culte, mais qui en revanche ne voyait pas d'inconvénient à vivre en concubinage et avec un non-chrétien, un non-croyant. Alors le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils mesuraient la qualité de leur religion, donc de leur religion prétendument chrétienne, à des choses qui ne sont pas du tout dans la Bible, et cela au détriment d'autres choses qui, elles, sont dans la Bible. Mais c'est facile de pointer du doigt les autres, n'est-ce pas? Alors posons-nous à notre tour la question. À quoi mesurons-nous la qualité de notre religion prétendument chrétienne? Ce que je veux dire par là, c'est un christianisme de qualité. Ça devrait se voir à quoi dans ma vie? À quoi Dieu prend-il vraiment plaisir quand il observe ma foi et ma pratique de la religion? Alors si vous êtes chrétien cet après-midi, je suis sûr que vous avez tendance, comme moi, à vous attacher un peu trop à certaines formes ou à certaines traditions, si bien que vous avez parfois du mal à imaginer que les gens qui ne font pas comme vous puissent être de bons chrétiens, voire même des chrétiens tout court. Et si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, il est possible que vous ayez observé ou fréquenté des gens qui se disaient chrétiens et qui étaient eux aussi un peu trop attachés à certaines formes ou à certaines traditions, si bien que vous, en tant que non-chrétien, vous vous dites peut-être qu'un bon chrétien, ou un chrétien tout court, c'est quelqu'un qui ressemble forcément à ça. Et si ça se trouve, c'est pas du tout vrai. Quelle que soit votre situation cet après-midi, je vous invite à être très attentif au texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, parce que ce texte traite précisément de cette question de savoir qu'est-ce qu'on devrait rechercher si on veut être, entre guillemets, des bons chrétiens, voire même des chrétiens tout court. Et la leçon de ce texte, comme on va le voir, c'est la suivante. La qualité de ton christianisme, Dieu la mesure avant tout à l'état de ton cœur. Le texte qu'on va lire nous en parle, vous allez voir, en trois étapes. D'abord en évoquant une tradition nuisible, ensuite un problème interne et enfin une contrition salvatrice. Alors tout ça, c'est des termes super qui donnent l'impression que ma prédication est vachement bien, mais en fait, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors lisons le texte, l'évangile selon Matthieu, chapitre 15. On va lire à partir du début jusqu'au verset 28. C'est la suite, hein, du texte qu'on est en train de lire et d'étudier depuis plusieurs mois maintenant. Nous lisons la parole de Dieu. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Jésus appela à lui la foule et lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, pardon, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Il répondit: Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici pour la lecture de la parole de Dieu. On va prier avant de regarder tout ça un peu plus en détail. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole et l'occasion que nous avons ce soir de nous y pencher et de l'étudier ensemble. Seigneur, s'il te plaît, bénis ces instants. Rends-les utiles pour notre foi, fructueux pour notre édification. Seigneur, nous plaçons donc ces moments entre tes mains pour que toi-même, tu nous instruises par ton esprit. Amen. Amen. La qualité de ton christianisme, Dieu la mesure avant tout à l'état de ton cœur. C'est ça la leçon de ce texte, me semble-t-il. Vous allez voir que dans un premier temps, versets 1 à 9, le texte veut nous faire comprendre qu'une religion de surface peut cacher un cœur qui est loin de Dieu. Dans le texte, il y a les responsables religieux de l'époque, ces fameux scribes et ces pharisiens, qui cherchent une fois de plus à décrédibiliser Jésus. Cette fois, en lui reprochant de ne pas respecter une certaine tradition qui était très fortement associée à leurs yeux, en tout cas, à ce qu'ils considéraient comme étant la vraie, pure religion. En l'occurrence, ils estimaient que tout bon croyant qui se respectait devait systématiquement pratiquer une espèce de petit rite de purification avant de manger, une sorte d'ablution rituelle qui consistait à se laver ou se purifier les mains. Donc, c'est pas juste le fait de se laver les mains par un souci d'hygiène, mais c'est vraiment une ablution rituelle aux yeux de ces responsables religieux. L'idée, c'est qu'on ne sait jamais quel objet impur on a pu toucher par mégarde. On ne sait jamais ce qu'on a pu toucher dans la journée sans le savoir. Et donc, pour éviter de souiller les aliments qui, à leur tour, souilleraient la personne qui les mange, mais tout ça sans qu'elle le sache, pour éviter tout ça, il vaut mieux se purifier trop souvent que pas assez. Donc il vaut mieux, avant de manger, faire ce petit rite, cette petite ablution rituelle pour se purifier les mains. On ne sait jamais. C'est du zèle religieux, mais on pourrait presque rapprocher ça d'une forme de superstition, n'est-ce pas? En tout cas, Jésus va répondre à ce reproche et à ses responsables religieux en leur faisant comprendre trois choses. D'abord que cette règle qui consistait à se purifier systématiquement les mains avant de manger fait partie d'une tradition qui a été inventée par des hommes et qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la première chose que Jésus leur fait comprendre. Ensuite, il veut leur faire comprendre que cette même tradition, qui est plus large que juste le fait de se laver les mains, cette même tradition prend parfois le dessus sur la parole de Dieu et conduit donc les gens à désobéir à Dieu. Et il leur donne un exemple concernant l'honneur qu'on était censé donner à ses parents. Et enfin, il leur fait comprendre, troisièmement, que derrière cette tradition qu'ils se sont élaborée, qu'ils ont inventée, se dissimulent des cœurs qui ne sont pas sincèrement attachés à Dieu. Bref, Jésus dit ici que le fait de se soumettre à des règles religieuses que Dieu n'a pas instituées, c'est pas bien. Parce que ces règles, d'après Jésus, prennent facilement le pas sur ce que Dieu veut vraiment. Et donc, Ces règles, inventées par des hommes, n'encouragent pas, en fait, le cœur de l'homme à s'attacher à ce qui est vraiment important, à savoir ce que Dieu lui-même a révélé. Une religion de surface peut cacher un cœur qui est loin de Dieu. Et un cœur qui est loin de Dieu peut se montrer très attaché à certaines formes et à certaines traditions qui passent pour de la religion, mais que Dieu n'a jamais instituées. Pourquoi ? Parce que c'est un déguisement efficace, c'est un camouflage efficace. Ça me fait penser à une habitude un peu rigolote qu'on a dans notre famille, quand on s'offre des cadeaux, par exemple à Noël. Parfois, parmi les cadeaux, il y a des petits trucs qui ne valent pas très cher, d'accord ? Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met ces petits bibelots dans des boîtes beaucoup plus grandes, on rajoute des cailloux pour faire du poids, d'accord ? On met un super beau papier cadeau avec un ruban, un nœud papillon, et quand on dépose ça sous l'arbre de Noël, bah vous imaginez que ça en jette, quoi. Si vous viendriez chez nous, la veille de Noël, vous verriez tous ces beaux cadeaux disposés autour de l'arbre, qui attendent d'être ouverts, et vous seriez impressionnés. Mais en réalité, si vous voyez ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, vous seriez déçus. Il y a presque tromperie sur la marchandise. Et notre cœur fonctionne un peu comme ça. Il s'attache facilement à des règles religieuses de surface que Dieu n'a jamais instituées, mais qui lui servent de camouflage à notre cœur, qui lui servent de déguisement. C'est très commode pour le cœur qui est loin de Dieu. Parce que ça lui permet de détourner l'attention de ce que Dieu demande vraiment. Comme le dit Jésus dans ce passage, verset 6, « Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Ça, c'est parfait pour le cœur qui est loin de Dieu. Puisqu'étant loin de Dieu, il ne s'intéresse pas vraiment à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui, aujourd'hui encore, des gens pour qui la déco de l'Église compte plus que l'unité de l'Église. D'autres pour qui la tenue du prédicateur compte plus que le contenu de la prédication. Et d'autres encore pour qui le fait qu'il y ait des activités pour les enfants pendant le culte, par exemple, c'est plus important que le fait d'honorer Dieu dans sa vie, notamment conjugale. Vous voyez, ça s'explique. Mais on pourrait ajouter d'autres exemples de choses que Dieu n'a pas instituées et auxquelles un cœur qui est loin de Dieu pourrait s'attacher au détriment de la parole de Dieu. Un certain style de musique dans le culte, par exemple. Ou le fait de respecter ou non le calendrier liturgique. Ou encore certains gestes liturgiques, comme le fait de se lever, de s'asseoir ou de s'agenouiller à différents moments du culte. Vous savez, quand je vous dis de vous lever à un moment du culte, vous n'êtes pas obligé. C'est juste Alex qui le demande. C'est pas Dieu qui l'a mis dans sa parole. Vous n'êtes pas obligé. La tradition, bien sûr, n'est pas mauvaise en soi. Pas plus que le fait de se laver les mains avant de manger. Ça, c'est pour les enfants. C'est pas mauvais en soi, de se laver les mains avant de manger. Mais la tradition peut devenir mauvaise quand elle prend le pas sur la parole de Dieu et à plus forte raison quand elle contredit et qu'elle annule, pour reprendre l'expression de Jésus, la parole de Dieu. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on doit critiquer la position de l'Église catholique romaine, qui a élevé la tradition de l'Église au niveau de la parole de Dieu, ce qui conduit à plusieurs contradictions entre le dogme de l'Église catholique et la vérité de l'Évangile révélée dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Alors que Jésus, dans ce texte, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il n'élève pas la tradition au niveau de la parole de Dieu. Il subordonne explicitement la tradition de l'Église à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible. C'est ce qu'il fait au verset 3 et au verset 6, par exemple. En tout cas, protestant ou catholique ou orthodoxe, ou je ne sais quoi d'autre, notre cœur s'attache facilement à des règles religieuses de surface que Dieu n'a jamais instituées. Pourquoi est-ce que ça vient si facilement ? Eh bien parce que c'est une stratégie d'autodéfense, comme on va le voir dans la suite du texte ici. Versets 10 à 20. En effet, la deuxième chose que le texte veut nous faire comprendre ici, c'est que le cœur de l'homme n'a pas du tout envie d'être confronté à sa propre culpabilité. D'où la stratégie de défense. Au verset 11, ici, Jésus prononce une espèce de proverbe destiné aux foules qui sont près de lui. Et c'est un peu la leçon que Jésus tire de l'échange qui a précédé, juste avant, avec les fameux responsables religieux, les scribes et les pharisiens. Et cette maxime qu'il prononce, un petit verset de rien du tout, elle choque profondément les pharisiens, d'après le verset 12. Et Jésus explique cette réaction des pharisiens en disant que les pharisiens ne sont pas disposés à entendre et à accepter la vérité. Il dit qu'ils sont aveugles, aveugles spirituellement. Et ceux qui les suivent sont aussi aveugles spirituellement. Quand Jésus dit cela, quand Jésus dit que les pharisiens sont aveugles, il ne veut pas faire passer les pharisiens pour des victimes. Hein. Il est en train de dire que ces pharisiens et ceux qui suivent les pharisiens ne veulent pas voir. Ils sont aveugles dans le sens, c'est pas dans le sens où c'est un handicap, c'est dans le sens où ils ne veulent pas voir. Ils veulent être aveugles. Ils ne sont pas disposés à entendre et à recevoir la vérité. La vérité les dérange et ils ne veulent pas l'entendre. Or, il se trouve, et ça c'est un petit peu l'humour de l'auteur, l'humour de Dieu même dans ce texte, il se trouve que les disciples eux-mêmes n'ont pas très bien compris ce que Jésus voulait dire, n'est-ce pas, versets 15 et 16. Alors Jésus leur explique. Il leur explique que les pharisiens sont obnubilés par l'impureté qui pourrait, par mégarde, si on ne se lave pas les mains, qui pourrait infecter des aliments et souiller par la suite, sans qu'on le sache, celui qui les mange. Ils sont obnubilés par ça. Mais en fait, les pharisiens, comme d'ailleurs tout le monde, comme vous et moi, on devrait plutôt être obnubilés, non pas par l'impureté qui pourrait nous souiller, mais par l'impureté qui sort de nous et qui provient de notre cœur. Là est la vraie impureté, dit Jésus. Autrement dit, l'impureté, la vraie, celle qui devrait vraiment nous inquiéter, c'est pas quelque chose d'externe qu'on subit comme une victime, mais c'est quelque chose d'interne qu'on fait comme un coupable. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que cette tradition à laquelle les pharisiens sont si attachés, plus attachés qu'à la parole de Dieu, cette tradition, c'est pour eux une façon d'esquiver la lumière de cette parole de Dieu qui révélerait l'état de leur cœur. Pourquoi donc est-ce que c'est si facile de s'attacher à des règles qu'on invente plutôt qu'à la parole de Dieu ? Parce que le cœur de l'homme, je le disais, n'a pas du tout envie d'être confronté à sa propre culpabilité. Ça me fait penser à un prof que j'ai eu quand j'étais en maîtrise de musicologie. Un prof que Amaury connaît. Mais je ne vais pas le nommer là. Je lui dirai après le culte qui sait. Comme je préparais un mémoire sur le chant des psaumes dans les églises réformées, évidemment j'ai parlé un petit peu du protestantisme. Il se trouvait que mon directeur de mémoire était lui-même catholique, pratiquant. Et je me souviens d'une remarque qu'il m'a faite et qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit... Je pourrais jamais être un protestant. Parce que vous, quand vous rencontrez Dieu, c'est entre quatre yeux. Et alors, vous savez, il y a énormément de choses dans cette remarque. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'appréhension de cet homme à se retrouver entre quatre yeux avec Dieu. C'est-à-dire, en fait, face à face avec lui. Alors, j'ai déjà mentionné un petit peu les catholiques. Je ne vais pas faire une fixation là-dessus aujourd'hui. Mais je me demande si une bonne part de la tradition catholique romaine, comme par exemple le sacerdoce des prêtres en tant que médiateur, ou encore la vénération de Marie, ou encore la prière aux saints, ou même le statut du pape, je me demande si une bonne partie de cette tradition catholique romaine ne provient pas du fait qu'il n'y a pas grand monde qui a envie, en fait, de se retrouver entre quatre yeux avec Dieu. Il n'y a pas grand monde qui a envie, au fond, de se retrouver face à face, personnellement, avec Dieu. Les protestants n'en ont pas plus envie que les catholiques, en réalité. Hein. Et tous les hommes, sans exception, cherchent le moyen d'esquiver la lumière de la parole de Dieu qui révèle ce qui est vraiment impur, à savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Tout le monde cherche à esquiver cette lumière. Que vous soyez catholique ou protestant, ou même non-croyant, je peux vous assurer que vous n'avez pas envie que Dieu projette sa lumière dans votre cœur. Vous n'avez pas envie que Dieu, par sa parole, pointe la lumière de sa sainteté comme une torche, une lampe torche puissante vers les recoins puants de votre cœur, comme du mien, là où il y a de la colère, là où il y a de la jalousie, de la convoitise, de l'orgueil, de l'impudicité ou du mensonge. Par pitié, non, je veux pas de ça, je veux pas de cette lumière qui va mettre, qui va montrer, qui va révéler ce qu'il y a dans ces petits recoins poussiéreux et sombres et puants de mon cœur. Mieux vaut militer pour qu'on enlève les fleurs de la salle de culte. Mieux vaut militer pour qu'on fasse porter une cravate au pasteur. Mieux vaut militer pour qu'on ait un club d'enfants chaque dimanche. Alors ça, oui, ça vaut le coup. Ça, c'est plus facile. Ça fait moins peur. Alors du coup, est-ce qu'on est dans une impasse ? D'un côté, il ne faut pas se cacher derrière une religion de surface, je le disais, mais en même temps, il est insupportable de se retrouver entre quatre yeux avec Dieu. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Être aveugle et tomber dans une fosse, ou être impur et brûlé sous le feu du jugement de Dieu ? Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que vous préférez ? Heureusement, il y a une autre voie. Et en effet, la troisième et dernière chose que le texte veut nous faire comprendre, cette fois à partir du verset 21 jusqu'à la fin, c'est qu'un cœur proche de Dieu est un cœur éloigné de soi. Alors le texte ici raconte que Jésus s'est rendu juste après dans un territoire voisin qui est techniquement à l'extérieur d'Israël. C'est un territoire où habitent surtout des païens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs. Et justement, Jésus va rencontrer quelqu'un sur ce territoire qui est radicalement l'opposé d'un pharisien. Mais radicalement, diamétralement l'opposé d'un pharisien. C'est comme une photo négative, ou le négatif d'une photo plutôt. Cette personne que Jésus rencontre, elle n'a absolument rien pour l'avantager par rapport à un pharisien. D'abord, c'est une femme. Ensuite, elle n'est pas juive. Ensuite, non seulement c'est une femme qui n'est pas juive, mais en plus c'est une femme qui n'est pas juive, mais qui est cananéenne. C'est-à-dire qu'elle appartient à un peuple dont les pratiques historiquement sont si abominables que ce peuple aurait dû être exterminé il y a longtemps, à l'époque de la conquête de la terre promise. Cette femme-là, elle est tellement susceptible d'avoir touché et mangé des choses impures et tout ça sans se laver les mains, que ça dépasserait de loin le pire cauchemar d'un pharisien. Mais il y a d'autres choses qui la différencient radicalement d'un pharisien. Par exemple, elle appelle Jésus « Seigneur » et « fils de David » qui est un titre, un des titres du Messie. Et puis au verset 22, elle le supplie d'avoir pitié d'elle. Verset 25, elle se prosterne devant lui. Et surtout, verset 28, elle obtient la faveur de Jésus, qui loue même la grandeur de sa foi. Ouais, c'est diamétralement opposé à un pharisien. Rien à voir. Mais quel est son secret à cette femme ? Quel est son secret ? Eh bien, le voici son secret. Le texte nous le dit. Hein. Cette femme s'est présentée à Jésus comme un petit chien qui n'espérait que quelques miettes de la grâce de son maître. En fait, cette femme avait conscience de deux choses. Elle avait conscience que Jésus était capable de la secourir, et elle avait conscience qu'elle n'était pas digne d'être secourue par lui. Conscience que Jésus était capable de la secourir, et en même temps conscience qu'elle n'était pas digne d'être secourue par lui. Et le fait qu'elle n'était même pas juive, donc qu'elle ne faisait même pas l'objet principal de la venue de Jésus en tant que Messie d'Israël, le fait qu'elle ne soit même pas juive ajoute au caractère extraordinaire de ces deux convictions de cette femme. Cette cananéenne reconnaît que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé pour racheter les hommes. Elle reconnaît aussi qu'elle, elle est par nature complètement étrangère aux promesses de grâce que Dieu avait faites à son peuple dans l'histoire. Et c'est pour cette raison, parce que cette femme cananéenne a ces convictions-là, c'est pour cette raison que Jésus dit que sa foi est grande. Contre toute attente, c'est cette femme-là dans l'histoire qui a un cœur proche de Dieu, contrairement à celui des pharisiens, qui est éloigné de Dieu, nous dit le texte. Parce qu'un cœur proche de Dieu, c'est un cœur qui est éloigné de soi. Plutôt que l'aveuglement ou le désespoir, il y a donc une troisième voie, celle de cette femme cananéenne, c'est celle de la contrition et de la repentance. Alors je voudrais que vous imaginiez deux situations différentes. La première, vous êtes un banquier qui gérait du mieux possible des quantités importantes d'argent. Vous essayez de faire très très attention à ce que toutes les transactions que vous menez se fassent dans le plus pur respect de la loi, sachant que vous allez bientôt subir l'inspection d'un contrôleur mandaté par l'État et sachant que les sanctions peuvent être très très lourdes. Alors vous vivez dans la crainte perpétuelle d'une négligence qui pourrait vous envoyer en prison au jour de l'inspection. Seconde situation, vous êtes un criminel qui avait braqué des banques et lors de votre dernier méfait, vous avez tué le gérant de la banque. Vous êtes en prison et vous attendez de comparaître devant un juge, sachant que la sanction sera très lourde. Laquelle de ces deux situations, à votre avis, ressemble le plus à la situation actuelle de l'homme devant Dieu? C'est la seconde. L'homme pense peut-être qu'il doit faire de son mieux aujourd'hui pour ne pas être reconnu coupable au jour du jugement. Mais en réalité, l'homme est déjà coupable et il attend son châtiment. La première situation, c'est un peu celle des scribes et des pharisiens qui pensent qu'ils doivent éviter ce qui pourrait les rendre impurs et par conséquent inaptes à entrer dans la présence de Dieu. Tandis que la seconde situation, c'est celle de la femme cananéenne qui sait qu'elle est déjà impure et qu'elle est déjà inapte à entrer dans la présence de Dieu. Dans la première situation, l'homme se voit, et les pharisiens se voient comme des victimes potentielles. Dans la seconde, l'homme se voit, plutôt la femme, comme un coupable avéré. Et c'est comme cela que le texte veut que nous nous voyions nous-mêmes, comme des coupables. Nous sommes déjà coupables. Nous ne risquons pas de devenir coupables. Nous sommes déjà coupables. L'impureté est déjà dans notre cœur. C'est ça qui souille l'homme, dit Jésus. Et c'est seulement quand on se voit comme un coupable avéré, quand on reconnaît qu'on n'est pas victime d'impureté, mais coupable d'impureté, parce que cette impureté habite notre cœur, c'est seulement dans cette situation qu'on peut s'oublier soi-même, renoncer à son orgueil, et alors s'approcher de Jésus comme ce petit chien qui supplie son maître de lui accorder quelques miettes de sa grâce. Ce qui est incroyable, ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire, ce qui est ahurissant, c'est que Jésus la donne, sa grâce, mais il n'en donne pas que quelques miettes. Il la donne en abondance. Il a payé le prix pour que ça soit possible. Il a pris sur lui l'impureté de notre cœur, notre propre culpabilité. Il l'a revêtue en quelque sorte. Il s'est habillé de nos crimes, de nos péchés. Il s'est habillé de notre impureté, de notre culpabilité. Et est allé ainsi à la croix subir le châtiment qui aurait dû s'abattre sur nous selon la justice de Dieu. Mais selon l'amour de Dieu, ce châtiment-là a été détourné sur Jésus, qui s'est substitué à nous volontairement. Et la Bible nous raconte qu'ensuite Jésus est ressuscité victorieux. Et maintenant il invite les coupables que nous étions à sortir de prison. Et non pas à grappiller quelques miettes qui tombent de la table, mais à nous asseoir avec lui à sa table. Donc oui, on peut rencontrer Dieu entre quatre yeux. Mais ce n'est pas de la présomption de notre part, c'est de la grâce de sa part. Et ce n'est pas réservé aux protestants. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui aiment Jésus en retour de son amour manifesté à la croix, tous ceux-là peuvent s'approcher hardiment de Dieu, courageusement de Dieu. Ils peuvent sortir de la cachette que constitue la religion de surface. Ils peuvent laisser pénétrer la lumière de la parole de Dieu dans leur cœur sans avoir peur d'être brûlés, sans avoir peur que ce soit insupportable, parce qu'ils savent que les péchés qui sont révélés dans leur cœur à la lumière de la parole de Dieu, ces péchés ont été pardonnés. L'impureté a été vaincue. Jésus en a payé le prix une fois pour toutes. Et maintenant, par sa parole, il compte exercer sa bienveillance dans notre vie en faisant le ménage dans notre cœur, en faisant le ménage progressivement sous l'action puissante de son esprit, qui, d'après la parole, a été déversé dans la vie de tous ceux qui ont foi en lui. Alors, plutôt que d'essayer d'esquiver la lumière de Dieu, en détournant l'attention vers des choses superficielles, vers cette fameuse religion de surface, vers des doctrines qui ne sont que préceptes humains, dit Jésus, au lieu de faire cela, nous pouvons, nous devons même, nous approcher humblement de Dieu, jour après jour, d'un cœur contrit, et lui demander pardon pour nos fautes, sachant qu'il nous pardonne, il nous a déjà pardonné. Alors à quoi mesurons-nous la qualité de notre religion prétendument chrétienne? Un christianisme de qualité, ça devrait se voir à quoi dans ma vie? À quoi Dieu prend-il plaisir quand il regarde ma foi et ma pratique religieuse? Un chrétien, on l'a vu, c'est pas quelqu'un qui est avant tout attaché à certaines formes ou à certaines traditions. Et peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui, en tant que chrétien. Ou peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui en tant que non-chrétien. La qualité de ton christianisme, Dieu la mesure avant tout à l'état de ton cœur. Une religion de surface peut cacher un cœur qui est loin de Dieu, car le cœur de l'homme n'a pas du tout envie d'être confronté à sa propre culpabilité. Mais un cœur proche de Dieu, c'est un cœur éloigné de soi. Un cœur qui s'approche humblement de Dieu dans la repentance, en reconnaissant qu'il n'a aucun mérite à faire valoir et que c'est Jésus qui fait valoir ses mérites au profit de ceux qui lui font confiance. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ce texte qui nous montre que nous ne devons pas avoir peur de ta lumière, de la lumière de ta parole qui vient éclairer l'état réel de notre cœur. Merci pour ce texte qui nous incite de nouveau à nous approcher de toi, à te confesser nos fautes et à recevoir ta grâce, Seigneur, que tu as acquise à grand prix et que tu es disposé à déverser notre vie en abondance. Seigneur, renouvelle notre foi en tes promesses. T'en prions au nom de Jésus. Amen.